Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunwa Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunwa Assurance. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à tous. Pour en parler, on utilise différents termes spécifiques, parfois un peu barbares. Ainsi, les troubles spécifiques du langage et des apprentissages sont communément appelés troubles 10. Et parmi ce spectre, on distingue différents troubles. La dyslexie, quand on a des difficultés pour apprendre à lire. La dysorthographie, quand cela concerne l'orthographe. Ou encore la dyspraxie, quand on a du mal à se concentrer ou à coordonner des gestes complexes. Mais il y a aussi la TDAH, le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. En France, 6 à 8% de la population serait concernée par les troubles 10, bien qu'il reste difficile d'avoir des chiffres précis. Ces troubles, pas forcément évidents à diagnostiquer, doivent attirer notre attention car ils peuvent avoir des conséquences importantes sur la scolarité et la vie quotidienne et mener à des difficultés d'insertion plus tard dans la vie professionnelle. Alors quels sont les différents types de troubles 10? Que sait-on de leur cause? Quel accompagnement et quelle prise en charge pour les jeunes 10? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, le docteur Gabriel Val, pédopsychiatre et co-auteur du Que sais-je, les enfants 10. Nous serons également en ligne avec Emmanuel Etonion, orthophoniste à Lomé et président de la Fédération des orthophonistes d'Afrique francophone. Et en fin d'émission, nous retrouverons la séance d'activité physique anti-sédentarité proposée par le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et de l'équipe de France de judo. Voilà pour le programme Priorité Santé. Bienvenue.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Gabriel Val, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Les troubles 10 sont des troubles spécifiques du langage et des apprentissages et ils continuent d'être attribués à des causes fautives de l'enfant qui, soi-disant, ne ferait pas assez d'efforts, qui ne serait pas motivé. Comment l'expliquez-vous ?
C'est une question centrale, tout particulièrement en France, car malheureusement dans notre pays, s'agissant des troubles 10, les croyances idéologiques l'emportent bien souvent sur les connaissances scientifiques. Pour ma part, je considère que les troubles 10 sont de nature neurobiologique, c'est-à-dire qu'ils sont liés à un dysfonctionnement cérébral, identifié notamment par l'imagerie cérébrale, notamment IRM ou scanner. Je précise quand même qu'il s'agit du domaine de la recherche et que dans la pratique quotidienne, le diagnostic de tel ou tel trouble 10 ne peut se fonder, par exemple, sur un IRM ou un scanner. Face à ces connaissances scientifiques établies depuis des dizaines d'années, le marché, si j'ose dire, des idéologies reste toujours très florissant. Nous sommes en effet confrontés à trois croyances. La première, inspirée par la psychanalyse, veut que toute difficulté scolaire ou comportementale soit en effet liée à une défaillance éducative ou affective des parents, et on les enferme alors dans une culpabilité parfaitement absurde. La seconde tient à une approche sociologique mal comprise, que j'appellerais le sociologisme, et qui veut que tout relève du social. Pour bien me faire comprendre, je vais citer un professeur qui continue d'enseigner dans une école normale supérieure et qui dit, je cite, « Étudier le fonctionnement du cerveau, c'est passionnant, mais cela n'a aucun rapport avec l'échec scolaire dont nous savons et donc nous pouvons prouver que les causes sont sociales et culturelles. » La troisième relèverait des enseignants qui, faute d'une formation suffisante dans ce domaine, continuent bien souvent à considérer les difficultés scolaires comme relevant d'une faute de l'enfant, en utilisant un vocabulaire que je qualifierais de moralisateur, par exemple, ne fait pas d'efforts, n'est pas motivé, n'écoute pas en classe, n'apprend pas les leçons, etc. Il est bien évident que ces trois idéologies, la première, la psychanalyse, le sociologisme, la seconde, et la moralisation, la troisième, ne sont pas seulement des erreurs ou des fautes, ce sont aussi des obstacles parfois infranchissables à la recherche d'un bon diagnostic.
On culpabilise aussi les parents hein, dont l'éducation serait défaillante. On est toujours dans cette morale culpabilisante encore. Hein.
Ah, tout à fait, tout à fait. Non seulement les parents sont confrontés à un problème, qui est que leur enfant est en souffrance scolaire, en échec scolaire, Et de surcroît, on ajoute à un non-diagnostic une culpabilisation. C'est vraiment une faute, je dirais presque grave, que de ne pas aider les parents et de surcroît de les culpabiliser.
Les troubles 10 sont reconnus légalement comme un handicap depuis 2005. Pour vous, est-ce vraiment un handicap ou une différence finalement ?
Oh, je dirais que c'est plus probablement une différence. Le terme d'ailleurs de trouble se distingue du terme de maladie. Par exemple, un myope n'est pas malade, il a seulement un trouble, donc ce serait un trouble. Mais en revanche, cela peut évidemment entraîner un handicap dans la mesure où c'est un obstacle majeur à l'épanouissement scolaire. Et on peut avoir un trouble 10, avoir une personnalité parfaitement stable et une intelligence même supérieure et être confronté à l'échec scolaire. Donc en ce sens, les troubles 10 peuvent être un handicap pour la réussite scolaire et pour l'épanouissement de soi-même.
Et inversement, est-ce que les troubles 10 permettent de développer d'autres capacités pour compenser ?
Écoutez, pas vraiment. Je pense que quand on a un problème de dyslexie ou de dyscalculie, on ne compense rien. Alors évidemment, certaines personnes ont un grand talent intellectuel et peuvent contourner le trouble, ou plus précisément le masquer pendant un certain temps, mais les troubles 10 n'apportent pas de talent fondamentalement supérieur dans d'autres domaines. Ce serait d'ailleurs formidable s'il en était ainsi, mais je ne crois pas que ce domaine, en tout cas, soit bien étudié.
Malheureusement. Est-il fréquent d'être atteint de plusieurs troubles 10, parce qu'on, je l'ai dit dans le sommaire, il y en a beaucoup?
Oui, c'est très fréquent. On peut naturellement connaître quelques pourcentages, on est de l'ordre de 30 à 60% de troubles associés. Donc il est presque rare de n'avoir qu'un seul trouble 10. Et certains d'ailleurs sont précurseurs d'autres troubles 10. Par exemple, lorsque vous avez une dysphasie, qui est un trouble du langage oral, donc ça correspond aux premières années de l'existence, eh bien vous avez plus de risques d'avoir également une dyslexie, c'est-à-dire un trouble du langage écrit. Donc il y a des associations bien connues entre troubles, et il n'est pas rare que même certains enfants aient 2, 3, 4, 5 troubles. J'ajoute que le TDAH, qui est le trouble avec déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, peut aggraver des troubles 10, voire même créer des troubles 10 qui sont presque des troubles pseudo-10, c'est-à-dire que le manque d'attention, le manque de concentration peut créer par exemple une pseudo-dysorthographie, ou si la dysorthographie existe, l'aggraver par le manque d'attention qui s'ajoute au trouble dysgraphique lui-même.
Et si on est atteint de plusieurs troubles 10, est-ce que cela complique le diagnostic et la prise en charge finalement ?
Bien sûr, ça complique le diagnostic, mais si on est entre de bonnes mains, en principe, aucun trouble 10 ne doit passer à côté, mais évidemment, ça complique la prise en charge. Il faut donc multiplier, par exemple, un enfant qui aurait à la fois une dyslexie et une dyscalculie, devrait suivre éventuellement un suivi orthophonique qui serait à la fois centré sur la dyslexie et également centré sur la dyscalculie. D'ailleurs, il existe en France des orthophonistes qui sont plutôt spécialisés pour la dyscalculie. Donc on peut même imaginer qu'un enfant qui aurait deux troubles 10 serait suivi par une orthophoniste plutôt spécialisée en dyslexie et par une autre orthophoniste plutôt spécialisée en dyscalculie.
Docteur Val, restez avec nous, mais maintenant nous sommes en ligne avec Benoît, qui nous appelle de Toulouse, dans le sud de la France. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Vous avez 25 ans, vous êtes dyslexique, dysorthographique, dysgraphique et dyscalculique. Quand et comment avez-vous été diagnostiqué, Benoît ?
Alors j'ai été diagnostiqué à la fin du CP, entre le CP et le CE1, via le RASED, donc qui avait alerté mes parents, voilà, signifiant que je pourrais avoir ces problèmes. Et donc, via une orthophoniste, on a réalisé un bilan qui a donc révélé ces troubles.
Et concrètement, comment ça se traduisait pour vous ? Quelles difficultés aviez-vous ?
Alors, j'ai relativement peu de souvenirs de cette époque, mais je sais que j'ai eu tout d'abord un rapport à l'écrit très compliqué, donc beaucoup de difficultés à former des lettres, beaucoup de confusion dans les lettres. Lire J'ai appris réellement à lire et à pouvoir lire, par exemple, des livres simples seuls que vers la fin de l'école primaire, début du collège. Donc ça s'est vraiment transcrit de ce point de vue-là. Et après, tout simplement, quand on faisait l'exercice où on doit lever rapidement le tableau Velleda avec un calcul mental dessus, j'étais systématiquement le dernier.
Et ça vous inquiétait? Comment?
Non, je pense pas que ça m'inquiétait, puisque comme je vous le dis, j'ai été diagnostiqué à la fin de mon CP, donc j'ai été pris en charge à partir de là. Donc j'ai vu une orthophoniste pendant de nombreuses années, et donc ça a aidé peu à peu à du moins comprendre ce qui se passe et essayer de s'adapter au mieux.
Docteur Gabriel Val, diagnostiqué en CP, c'est la norme? C'est vers les 6 ans qu'on est diagnostiqué généralement, ou comment ça se passe? Docteur Val?
Que l'on pourrait considérer comme précoce, parce que parfois les diagnostics se font très tardivement, après des années d'échecs scolaires, et même certains enfants sont contraints à une scolarisation qui ne correspond pas à leur talent intellectuel, simplement parce qu'un trouble 10 n'a pas été identifié. Donc nous sommes plutôt dans une situation favorable.
Alors Benoît, vous avez été suivi par un orthophoniste, vous, c'est ça?
Oui, tout à fait.
À partir de 6 ans jusqu'à l'âge de 13-14 ans, est-ce que c'était uniquement un orthophoniste? Est-ce que vous avez vu d'autres spécialistes?
Oui. Alors, pendant donc la primaire, j'ai eu l'occasion de voir un pédopsychiatre, effectivement, pour mieux accepter ce problème.
Même si... Parce que c'était difficile à accepter pour vous, Benoît?
C'était difficile, mais relativement inconscient, je dirais. Après, oui... Ça a été assez difficile, je me rappelle, en primaire au tout début, puisque les autres élèves ne comprenaient pas que je puisse avoir cette différence.
Et du coup, vous étiez victime de stigmatisation? Vous étiez, on sait que les enfants peuvent être cruels entre eux?
Oui, c'est arrivé, oui.
Ouais.
Et donc, en dehors de l'orthophoniste, que j'ai vu donc pendant à peu près 7 ans, j'ai vu une psychomotricienne pour tout ce qui était dysgraphie, mais ça ne s'est pas du tout avéré pertinent, en fait. Ça n'a rien apporté.
Ah bon?
Non.
Et avec l'orthophonie, vous avez senti des changements quand même?
Oui, sur tout ce qui a été lecture, surtout sur ce point de vue-là qu'elle a pu m'apporter un grand support. Voilà, on a eu un entraînement qui est, enfin plutôt une façon de faire qui n'est pas celle de l'école et qui m'a permis de mieux appréhender les lettres, de mieux peut-être même les former pour certaines, même si c'était moins bien formé, et de lire des textes de façon plus simple. Et aussi pour la dyscalculie, en moindre mesure, peut-être essayer d'appréhender des méthodologies, même si ça, encore aujourd'hui, ça reste quelque chose d'assez abstrait pour moi.
Docteur Val, le problème avec les 10, c'est que on peut améliorer un peu les problèmes et pas les combler totalement, c'est ça?
Oui, tout à fait. On peut les améliorer, d'ailleurs, doivent participer à l'amélioration des troubles 10, les spécialistes, donc psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes, etc., et puis pédopsychiatres.
Mais parfois ça ne marche pas, comme le disait Benoît.
Absolument, mais également les parents et les enseignants. Il existe de nombreuses méthodes, de nombreux aménagements et des solutions de contournement. Par exemple, un enfant qui a une dysgraphie, eh bien, on peut éventuellement, si cette dysgraphie est importante, lui proposer un ordinateur. Et donc, il n'aura pas l'effort d'écriture qui peut faire obstacle, parce que c'est ce qu'on appelle la double tâche. C'est-à-dire que si vous avez un mal fou à écrire, vous n'avez plus de disponibilité cognitive pour comprendre la leçon. Vous faites trop d'efforts attentionnels pour écrire, parce que chaque lettre est difficile à écrire. Et donc, avec un ordinateur, voilà une solution très simple, un ordinateur, eh bien, vous pouvez prendre en note, et donc, non pas guérir la dysgraphie, mais tout simplement la contourner avec un simple aménagement. Et ces ordinateurs peuvent être disponibles dès le CP. On peut très bien, si on voit qu'il y a une dysgraphie sévère et grave pour laquelle on ne trouve pas de solution, proposer donc des solutions d'aménagement ou de contournement.
Bien justement, Benoît, est-ce que vous avez, enfin, comment s'est passée votre scolarité et est-ce que vous avez bénéficié justement d'aménagement à l'école, vous?
Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, moi, j'ai eu la chance d'avoir un soutien indéfectible de mes parents, donc qui ont pu m'aider à obtenir ces aménagements, donc ces aménagements et au cours et aux examens. Donc, pendant à peu près toute ma scolarité, à quelques rares exceptions, j'ai pu avoir les copies des cours soient prises par des camarades, soit imprimées. J'ai pu avoir, lors des contrôles ou des partiels, un ordinateur ou un secrétaire scripteur pour prendre note à ma place. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a réellement, qui m'a réellement aidé, qui m'a permis d'aller jusqu'au bout de mes études, ce que j'aurais certainement pas réussi à faire sans ça. Même si j'aimerais juste tenir à souligner que c'est une chance absolue que j'ai eue aujourd'hui dans ma région, donc la région toulousaine. Tous ces droits que j'ai pu obtenir dans ma scolarité sont de moins en moins accessibles pour des enfants qui sont parfois beaucoup plus en difficulté que moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même avoir un tiers-temps à un examen est parfois impossible.
Comment vous l'expliquez ça, docteur Val, justement cette régression dans tout ce qu'on peut faire pour les personnes 10?
Écoutez, j'avoue que je le découvre, qu'il y a une régression à Toulouse. C'est quelque chose qui est probablement spécifique, parce que nous sommes plutôt en progression lente et laborieuse, très, très, très insuffisante, mais nous sommes plutôt en progression. Donc là, vraiment, je pense que Benoît a rencontré les bonnes personnes au meilleur moment, et que, d'une certaine façon, son parcours devrait nous inspirer pour permettre la réussite scolaire de tous les enfants du monde.
Ben justement, le parcours de Benoît, le voici. Vos parents, je crois, vous ont orienté vers un bac pro électronique que vous avez eu. Vous avez quand même fait une école d'ingénieur. Est-ce que c'est quelque chose... Vous avez travaillé pour Airbus, d'où Toulouse. Est-ce que c'était quelque chose que vous pensiez inaccessible pour vous, ces études d'ingénieur, ce parcours brillant, finalement, Benoît?
Non, je n'ai jamais vu, je suis quelqu'un de très positif, je n'ai jamais vu ça comme étant inaccessible, j'ai toujours vu ça comme étant compliqué. Alors, très honnêtement, aujourd'hui, j'ai fait la formation que je souhaitais, je travaille là où je souhaite, mais étant plus jeune, par exemple, j'ai eu souhaité vouloir m'engager, par exemple, dans la voie de l'archéologie, et ça, j'ai compris très rapidement que ça me serait impossible. Donc, il y a tout de même des voies qui se sont fermées. Mais bon, j'ai la chance d'avoir plusieurs cordes à mon arc et d'avoir pu donc faire ces études, mais qui m'ont demandé quand même beaucoup de persévérance.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez pleinement récupéré, Benoît, ou est-ce qu'il y a encore des choses que vous ne pouvez pas faire?
Non, il y a des choses que je ne peux pas faire et je pense que je ne pourrai jamais les faire.
Et vous y pensez encore à vos troubles 10 ou c'est plus un problème?
Alors, ce n'est pas vraiment un problème dans la mesure où j'ai aménagé tout mon environnement de travail et toute la façon dont je vis pour que ce ne soit pas un problème. En revanche, bien sûr, j'y pense quotidiennement.
Merci beaucoup, Benoît. Merci d'avoir témoigné à notre micro. Je vous souhaite une très bonne journée à Toulouse. Merci infiniment.
Et vous aussi, au revoir.
Allez, au revoir. Une petite réaction, docteur Gabriel Val, quelqu'un qui s'en est parfaitement remis, qui n'y pense plus. C'est la norme ou c'est plus compliqué que ça pour certains patients?
C'est souvent beaucoup plus compliqué. Là, c'est vraiment un plaisir de découvrir le beau parcours de Benoît. D'une certaine façon, il démontre que les troubles 10 peuvent être surmontés, qu'ils n'interdisent pas une belle carrière, notamment d'ingénieur. Et surtout, c'est le point le plus important, que l'on peut avoir un ou plusieurs troubles 10 et disposer d'une grande intelligence et donc ne s'interdire aucune ambition ou réussite. Et l'exemple de Benoît doit vraiment nous inspirer, nous porter un certain optimisme pour surmonter les troubles 10 qui, encore une fois, sont magnifiquement compatibles avec une très grande intelligence et une personnalité stable et saine. Donc il ne faut pas confondre les troubles 10 et l'intelligence en général.
Et on comprend aussi avec le témoignage de Benoît qu'il est important d'être diagnostiqué tôt. Lui, c'était à 6 ans au CP. Est-ce que certains échappent aux mailles du filet? Est-ce qu'on peut diagnostiquer ces troubles 10 à l'âge adulte, docteur Val?
Bien sûr, c'est vraiment un problème majeur. C'est-à-dire que nous sommes actuellement... pour certains enfants 10, conduit à, c'est ce que nous disions en tout début d'émission, à des considérations culpabilisantes, affectives ou éducatives, et donc on peut avoir des suivis en psychothérapie, par exemple, qui ne servent strictement à rien pour le trouble 10, et donc n'avoir aucun diagnostic et aucun traitement, bien sûr, c'est un problème majeur. Nous avons des centres experts en France dans ce domaine, mais certains n'y ont pas accès, tout simplement parce qu'ils ne sont pas informés qu'ils existent, et donc ils sont plongés dans des psychothérapies individuelles ou familiales au nom de défaillances affectives, éducatives, ou que sais-je. Voilà. Donc oui, tout à fait, le parcours de Benoît est un parcours que je crois exemplaire, mais surtout probablement minoritaire.
La
majorité des enfants n'ont pas cette chance.
Lorsque c'est diagnostiqué à l'âge adulte, j'imagine que la prise en charge est plus compliquée, plus complexe, avec moins de récupération.
D'abord, c'est en effet une prise en charge beaucoup plus complexe, moins de récupération probablement, mais surtout, il y a tout un parcours d'échecs qui est souvent irréversible. C'est-à-dire que quand vous avez un trouble 10, vous avez quand même plus de risques d'être en échec scolaire. Donc si vous disposez par ailleurs d'un grand talent intellectuel, vous vous retrouvez en double souffrance. C'est-à-dire d'une part, vous avez eu tout un parcours de souffrance scolaire, d'échecs scolaires. Vous êtes confronté à une vie sociale et professionnelle qui n'est peut-être pas à hauteur de vos ambitions. Et donc, par-delà même le fait que les thérapies chez l'adulte sont évidemment beaucoup plus compliquées et beaucoup plus aléatoires, vous avez un parcours d'échec sur lequel il est difficile de revenir. Donc, vous êtes confronté à une situation d'échec parfois un peu irréversible.
Yeah, tá ligado, né? Rachid, Emicida, Luquinhas, Dogs.
É que eu tenho alma de pipa voada. Ela me deu linha e depois voei. Solto pelo céu, quero saber de nada. Ela me deu linha e depois voei. Voei, voei, voei. Eu voei, voei, voei.
Yeah, yeah. Com pensamento lá em cima, que nem pipa. O ritmo do meu dia, correria quem dita. Pensando nela que é hit igual Isa Anitta. Sorriu pra mim, fiquei igual Kevinho, cê acredita? Romance latino desse tão bonito. De brecha em brecha me aproximei no Despacito. Beleza insana e essa nossa sintonia, que nem a NASA com satélites conseguiria. Me pôs na linha mais que atendente de banco. E eu gosto tanto, pra te ver eu me adianto. Eu não sou santo, mas depois do seu encanto, fiquei de auréola, duas asas e vestido de branco. Praticamente um anjo. Encontrei no seu beijo as melhores palavras pra encaixar nesse arranjo. Nós é tipo a lindo e banjo, brilhante. Quer voar alto, vem comigo, os outros são só rasante.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui nous parlons des troubles 10, des troubles du langage et des apprentissages, avec notre invité, le docteur Gabriel Val, pédopsychiatre et co-auteur du Que sais-je. Les enfants disent. Docteur Gabriel Val, de nombreux auditeurs souhaitent vous poser des questions. Et on commence avec Raymond Patrick. Raymond Patrick qui est à Libreville au Gabon. Bonjour Raymond Patrick.
Bonjour Igor.
Alors quelle est votre question, votre témoignage? Nous vous écoutons.
Ben alors, moi j'ai mon neveu à qui on a découvert une dyspraxie à l'âge de 5 ans. Et ça a été compliqué dans le sens où, après avoir découvert sa dyspraxie, on n'a eu aucun soutien. Et on n'a jamais su vraiment comment le caler au niveau scolaire, en fait. Parce que il n'y a pas d'école spécialisée.
Et pourtant, vous avez vu un orthophoniste, il a vu un orthophoniste, un neurologue, un psy. Ouais. Tous ces spécialistes n'ont pas pu vous aiguiller, vous conseiller pour une scolarité qui lui conviendrait mieux?
Non. C'est vraiment en cherchant nous-mêmes, en allant sur Internet, en allant voir dans des groupes Facebook consacrés aux 10, qu'on a pu comprendre certaines choses et qu'on a essayé de trouver des solutions. Donc, c'est pour ça qu'on l'a inscrit au CNED via...
Donc c'est les cours à distance, c'est ça?
Voilà, exactement. Via une école à Libreville et il était soutenu par un ami de la famille qui s'occupait de bien sûr les cours avec lui et tout, et ça se passait vraiment vraiment bien. Et après ensuite il allait en cours directement dans cet établissement, toujours via le CNED, mais après ça ça se passait très 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 mal et les résultats n'ont pas suivi. Pourtant c'est un enfant très 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 intelligent qui a un très gros potentiel. Et on est un peu désemparés actuellement. On est désemparés. On envisage même de le faire voyager.
Pour venir en France?
Oui, exactement. Mmh. Essayer de trouver des solutions à l'étranger. Parce que on est livré à nous, en fait. Mmh. On peut pas livrer à nous.
Merci Raymond Patrick pour ce témoignage émouvant. Merci beaucoup. Bonne journée à vous à Libreville. Docteur Val, on entend les familles démunies, l'isolement social. C'est fréquent ces cas-là?
Oui, bien sûr. Mais pour commenter le sort de Raymond Patrick, j'avoue que je n'ai pas assez d'informations pour donner le moindre avis. Tout au plus, je me risquerais à dire que la seule dyspraxie ne me paraît pas suffisante à tout expliquer des difficultés de ce garçon. C'est naturellement une simple hypothèse. Aussi, je donnerais peut-être le conseil de reconsulter d'autres spécialistes pour prendre un deuxième avis, refaire le tour des difficultés et ne pas se cantonner à la seule dyspraxie. Et notamment, il serait souhaitable de faire un bilan en neuropsychologie et en psychiatrie. Alors, peut-être que cela a déjà été fait, mais lorsqu'on est confronté à une situation d'échec, il est sage de demander un deuxième avis, et donc je pense qu'il faudrait probablement refaire un parcours diagnostique assez complet.
Il parlait des difficultés de la scolarité, hein. Comment expliquez-vous, docteur Val, que de nombreux enfants 10 soient déscolarisés finalement? L'école de la République n'arrive pas à s'adapter à ces enfants?
Oui, ça, l'école de la République, comme vous dites, n'est pas très républicaine sur ce plan, ou n'est pas très démocratique, car elle n'offre pas à tous les enfants toutes les possibilités que la médecine actuelle pourrait offrir, que ce soit sur le plan diagnostique, sur le plan thérapeutique, sur le plan pédagogique. Donc oui, en effet, certains enfants sont déscolarisés, ou ce qui revient à peu près au même, n'obtiennent aucun progrès et passent comme cela mécaniquement de classe en classe, et on arrive à des situations extrêmes où un enfant en CM2 promis à la sixième par automatisme, si j'ose dire, réglementaire, ne sait toujours pas lire et écrire, ne maîtrise pas le calcul élémentaire, etc. Donc il y a des déscolarisations non visibles que sont le passage d'année en année avec un trouble qui n'est pas diagnostiqué et un niveau scolaire qui reste très insuffisant. Et on a donc aujourd'hui en France, sans qu'on s'en émeuve particulièrement apparemment, des enfants qui en CM2 ont un niveau de CP et vont cependant passer en sixième.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Quels conseils donner aux enseignants et aux familles pour les accompagner, ces enfants 10?
Eh bien, le premier conseil que je donnerais aux parents et aux enseignants, c'est lorsque une situation n'est pas éclaircie sur le plan diagnostique, eh bien, c'est de continuer à chercher jusqu'à ce qu'on ait une clarification. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on peut s'adresser à des associations. Nous avons en France notamment la FF10, Fédération Française des 10, qui regroupe toutes les associations concernant la dysphagie, la dyspraxie et d'autres troubles. Et donc là, auprès d'eux, on peut avoir des informations précises, l'adresse des centres experts, parce qu'il existe quand même en France des centres experts sur les troubles des apprentissages, qui sont parfaitement qualifiés avec des professionnels très aguerris à ces troubles. Et donc le problème numéro un, ça n'est pas qu'en France il n'existe pas de centres de qualité, c'est que les gens, faute d'informations, n'y ont pas accès. Par exemple, je ne veux pas dire trop de mal de certains centres, mais par exemple dans les CMPP, souvent la seule dominante, c'est la psychanalyse, et donc par conséquent, si vous voulez, tout ce qui est neurobiologique, tout ce qui est diagnostique, n'a pas la faveur, si vous voulez, de ces thérapeutes. Donc il est toujours sage de s'adresser aux associations, d'une part, et d'autre part, de rechercher les centres experts des troubles des apprentissages, puisque il y en a à peu près un par département ou par région pour les zones les moins favorisées.
Allez, direction le Togo. Nous sommes en ligne avec Emmanuel Etonion, orthophoniste à Lomé et président de la Fédération des orthophonistes d'Afrique francophone. Emmanuel Etonion, bonjour.
Bonjour Igor.
Est-ce que les troubles 10 sont courants au Togo, donc dyslexie, dyspraxie ou dysphasie?
Oui, au Togo, il y a ces troubles mais ces troubles sont très peu connus, surtout la dyscalculie et la dyspraxie. Mais nous recevons beaucoup d'enfants qui présentent un trouble du langage qui n'est pas forcément une dysphasie. Et c'est après le bilan orthophonique qu'on se rend compte qu'il y a certains qui présentent une dysphasie.
Mais alors, quels sont les motifs de consultation quand les parents vous amènent leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Et à quoi est-ce qu'ils attribuent ces symptômes, finalement?
Pour les troubles du langage oral, c'est visible. Lorsqu'un enfant ne parle pas, les parents se rendent compte de ces troubles et viennent. En revanche, pour les troubles de lecture et les troubles du calcul, ce sont des troubles très peu connus, comme je viens de le dire. Mais avec les sensibilisations que nous faisons sur le terrain, les enseignants et certains parents ont compris que les échecs scolaires ou les difficultés pour lire et pour calculer ne sont pas forcément dus à la paresse. Donc, il y a certains enfants et certains parents qui viennent nous voir pour dire que leur enfant n'arrive pas à lire ou leur enfant confond les lettres. Et souvent, c'est suite aux échecs scolaires répétés qu'ils viennent pour avoir un bilan orthophonique et savoir ce dont souffre leur enfant.
Et comment ils réagissent quand vous leur annoncez le diagnostic? Sont-ils rassurés d'apprendre que leur enfant, finalement, n'est pas du tout un feignant ou que le trouble s'explique? Ou est-ce qu'ils sont inquiets parce que ça signifie avoir accès à des spécialistes?
Bon, ils sont tout à fois rassurés et inquiets. D'abord, ils sont rassurés parce qu'ils se disent que vraiment leur enfant n'est pas paresseux et leur enfant a un quotient intellectuel normal. Et en revanche, ils sont également inquiets parce que c'est une prise en charge à long terme et des fois, ils n'ont pas forcément les moyens pour suivre cette prise en charge à long terme. Mmh. Donc, c'est un peu difficile pour eux. Eux aussi, au niveau de l'école, à l'école, la classe n'est pas faite pour faciliter la réussite scolaire des enfants qui présentent ces troubles 10. Donc, du coup, c'est tout un travail à faire au niveau des parents, également au niveau de l'école.
Oui, surtout qu'on rappelle qu'en Afrique, il n'est pas rare d'avoir des classes extrêmement surchargées d'élèves. Hein. On peut facilement monter à 50-60 élèves. Du coup, un élève 10 peut passer inaperçu. On parlait des spécialistes, des orthophonistes. Est-ce qu'il y a des orthophonistes dans l'ensemble du Togo? Je crois que vous êtes 35 dans le pays, mais basé à Lomé ou sur l'ensemble du territoire?
Il y a plus d'orthophonistes à Lomé que dans les autres régions du Togo. Mmh. Mais depuis un certain temps, l'État fait des efforts pour qu'à chaque concours de recrutement, il puisse avoir des orthophonistes dans toutes les régions du Togo. Mmh.
Ben, c'est important.
C'est vrai que c'est peu 35 orthophonistes pour 7 millions d'habitants. Mais il y a des efforts qui se poursuivent. Et dans peu de temps, je pense que nous serons plus nombreux et pour couvrir la plupart des enfants, pour pouvoir soigner la plupart des enfants qui présentent cette troupe.
Est-ce qu'il y a de la détection en milieu scolaire organisée officiellement ou pas?
Je n'ai pas bien compris la question.
Y a-t-il une détection en milieu scolaire organisée pour sensibiliser et voir s'il y a des cas d'enfants 10 dans certaines classes, dans certaines écoles?
Oui, depuis un certain temps, l'association des autochtones du Togo essaie d'organiser les séances de sensibilisation dans les écoles. Et au cours de cette séance de sensibilisation, les enseignants sont informés sur les signes d'alerte des troubles 10 et comment se comporter également face à un enfant qui présente un trouble 10. Mmh. Généralement, et c'est à Lomé que ces sensibilisations s'organisent et c'est suite à ces sensibilisations que nous recevons beaucoup d'enfants qui présentent des troubles de la lecture et de l'écriture qui viennent. Et après le bilan orthophonique que nous faisons un retour à l'école pour informer les enseignants des réaménagements qu'ils pouvaient faire dans leur classe pour pouvoir aider ces enfants. Par exemple, un enfant qui n'allait pas lire, ce n'est pas une bonne chose de lui demander de lire à haute voix devant toute la classe. Parce qu'il fera un effort pour déchiffrer et n'aura pas accès à l'information et il ne va pas comprendre forcément ce qu'il va lire. Donc, il y a des conseils que nous donnons aux enseignants. Également, un enfant qui n'avait pas lu, il faut agrandir la taille de l'écriture, mettre l'enfant devant pour qu'il puisse bien regarder et bien lire. Et aussi, à chaque fois que l'enseignant copie, il faut que l'enseignant lise ce qu'il a écrit pour que l'enfant qui éprouve des difficultés pour lire puisse accéder à l'information de manière orale ou bien auditive.
Merci beaucoup. Merci Emmanuel Etonnion. Je rappelle que vous êtes orthophoniste à Lomé et président de la Fédération des orthophonistes d'Afrique francophone. Bonne journée à vous à Lomé.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
Allez, le temps passe très vite, docteur Gabriel Val. J'aimerais qu'on parle d'un trouble méconnu dont on parle peu alors qu'il concernerait environ 5% des enfants scolarisés en France. C'est le TDAH, pardon, c'est difficile à dire, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. De quoi s'agit-il, docteur Val?
Est-ce que vous me permettez de commenter ce que vient de dire mon confrère?
Avec plaisir. Pardon, je ne vous ai pas fait réagir.
Non. De quelques mots, simplement pour lui dire que je suis en plein accord avec lui sur un point. Dans un pays où il n'y a pas suffisamment d'orthophonistes, il faut que les enseignants soient des experts en matière de dyslexie, de dyscalculie, etc. Et il existe un certain nombre de méthodes. Il a donné un élément, par exemple, d'augmenter la taille des lettres. Ça peut être suffisant pour un enfant dyslexique pour mieux lire, d'espacer aussi les lettres. Et il y a une méthode que l'on peut trouver sur Internet qui est la méthode FALC, F-A-L-C, qui permet d'avoir un certain nombre de procédures pour pouvoir faciliter la lecture. Pareil pour la dyscalculie, il y a un site qui s'appelle Cogniscience, et vous avez dans ce site Cogniscience en un seul mot, C-O-G-N-I, science, avec un S au pluriel. Vous avez par exemple des jeux éducatifs, mathématiques, qui s'appellent la course au nombre ou l'attrape-nombre, et c'est tout à fait utile aussi pour les enseignants et pour les parents. Donc il faut vraiment, j'ai envie de dire malheureusement, constater qu'il n'y a pas suffisamment d'orthophonistes dans les pays d'Afrique francophone, et d'Afrique tout court, et donc par conséquent, les enseignants doivent être encore plus vigilants et les parents doivent être encore plus vigilants pour accéder à des possibilités d'aide qui sont évidemment insuffisantes par rapport à ce que peut offrir un orthophoniste, mais qui sont déjà la possibilité d'un progrès. Alors sinon, pour répondre à votre question...
Merci docteur Val. Ah non, mais merci d'avoir précisé tout ça, ça fera plaisir, j'imagine, au docteur Etonnion qui était à Lomé. Donc allez, on passe au trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Alors, je vais essayer de
rapidement, parce que le temps passe vite.
Rapidement. Je vais essayer de vous résumer en quelques mots ce que cela signifie. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux synonymes à TDAH. Le premier, c'est hyperactivité, et le second, c'est syndrome disattentionnel. Mais le terme d'hyperactivité correspond à une erreur dans l'histoire de la médecine, car il a désigné ce trouble sur la seule apparence du symptôme le plus visible, à savoir l'agitation. Alors qu'en réalité, le plus important est le trouble de l'attention et de la concentration.
C'est quand même problématique, ça, qu'on se focalise sur l'hyperactivité, alors que le gros problème, c'est l'inattention.
Eh bien, c'est la raison pour laquelle on a créé un acronyme, TDAH, qui explicite ce que je viens de vous dire, puisque TDAH, ça veut dire « trouble avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité ». Trouble avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et lorsque un enfant est seulement dans la lune, seulement rêveur, seulement distrait, eh bien, on peut même dire qu'il a un TDA, c'est-à-dire on fait sauter le H pour bien expliciter le fait que c'est un trouble centré sur l'attention et la concentration. Alors, ce trouble concerne, tout pays confondu, 5% des enfants. C'est probablement le trouble le plus impliqué dans l'échec scolaire. Passer à côté de ce trouble ou ne pas lui en reconnaître la nature très explicitement neurobiologique et donc lui refuser un traitement médical est le plus souvent condamner un enfant à un parcours scolaire et social très éprouvant. Donc c'est vraiment un trouble important. L'acronyme TDAH donne une impression savante, mais c'est tout simplement la somme de trois troubles. L'inattention, qui est le premier problème majeur, ça peut s'accompagner ou non d'agitation et ça peut s'accompagner ou non d'inattention. C'est donc un trouble qui est un petit peu différent des autres troubles 10, en ce sens que vous avez à la fois un problème scolaire, un problème d'apprentissage, mais vous avez aussi un problème comportemental, c'est-à-dire qu'un enfant rêveur va être perçu comme étant volontairement inattentif, volontairement dans le refus scolaire, et un enfant qui, de surcroît, est rêveur et en plus agité et impulsif, va être perçu comme un enfant casse-pied. Donc c'est souvent...
C'est ça, un enfant casse-pied qui se blesse tout le temps, qui ne suit pas en classe, c'est un véritable ouragan, quoi. On va s'arrêter là, docteur Gabriel Val. Je suis désolé, c'était passionnant. On aurait aimé vous entendre davantage, mais l'émission était très chargée. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre, co-auteur du Que sais-je, Les enfants 10. Vous avez également écrit sur les enfants victimes de TDAH. Merci infiniment et bonne journée. Priorité santé, suite et fin. Et on retrouve à présent le docteur Jean-Marc Seine, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo, pour notre chronique anti-sédentarité, la chronique qui vous fait bouger chaque semaine. Bonjour Jean-Marc Seine.
Bonjour Igor. Bon, j'espère que vous êtes autant en forme que la semaine dernière.
Eh bien écoutez, on est en pleine forme. On est ravis de vous retrouver en tout cas pour cette chronique sportive. Quels sont les exercices du jour, Jean-Marc ?
Alors aujourd'hui, on va faire un exercice pour travailler les muscles des jambes. On va faire le step-up. C'est une montée de marche. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va permettre de travailler le quadriceps, les fessiers, les muscles de derrière les cuisses qu'on appelle les ischio-jambiers. Ça, c'est le premier exercice qu'on va réaliser. Le deuxième, ça va être, on va travailler un exercice qui travaille les abdominaux, le relevé de buste. Alors là, c'est intéressant. Parce que ça va travailler ces muscles-là qu'il y a de devant le ventre, qu'on appelle les abdominaux. Alors, le step-up, c'est quoi ? Eh bien, on va se placer face à un petit banc qui est pas plus haut que la hauteur des genoux, ou si on n'a pas une marche d'escalier, tout simplement. Les pieds bien positionnés à largeur d'épaule, de hanche, et on va pouvoir, comme ça, eh bien, monter sur la marche ou le banc avec le pied droit, et puis on va relever, monter le genou gauche bien à hauteur. C'est-à-dire qu'on relève le genou gauche comme si on voulait vraiment ramener le genou à la poitrine. Puis ensuite, on pose le pied gauche sur la marche, et on redescend avec le pied droit, et on va faire le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'une fois, on monte avec en levant le genou gauche, et l'autre fois, on montera en levant le genou droit, tout simplement. Et alors ça, c'est le premier exercice, et on va répéter ça un certain nombre de fois, 10, 14 ou 18 fois, évidemment, du côté droit et du côté gauche.
Voilà, suivant que l'on soit débutant ou confirmé. Et donc, le deuxième exercice, Jean-Marc, en quoi consiste-t-il ?
Alors, le deuxième exercice, le relevé de buste, là, c'est le but, c'est de travailler les abdominaux. Cette fois-ci, on va être allongé sur le dos, les jambes sont fléchies, et avec les cuisses à 45 degrés, donc les pieds sont posés au sol. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller le buste, pour que les omoplates, hein, que le dos quitte le sol. Puis on va redescendre tout doucement, sans poser la tête. Donc on va se redresser en quelque sorte, puis ensuite on va descendre tout doucement. Ce qu'il faut, c'est surtout, il faut pas forcer sur sa nuque et pas tenir ses mains sur la nuque pour éviter de se faire mal au niveau du cou. Et il faut faire tout ça en soufflant, en se relevant et en inspirant, en descendant.
Eh bien écoutez, on est prêt, on se prépare, en tout cas pour ceux qui ne le sont toujours pas. Et puis on vous suit Jean-Marc. Donc chacun a mis ses baskets et on commence avec le premier exercice.
Le step-up, la montée sur marche. Alors on a le pied droit sur la marche et on donne une impulsion et on lève le genou gauche. Puis ensuite on repose le genou gauche au sol et sur la marche, puis on redescend et on remonte à nouveau le genou gauche. Puis on redescend et à nouveau on monte le genou gauche, puis on redescend. À nouveau on monte le genou gauche, puis on redescend. On remonte le genou gauche, puis on redescend. On monte le genou gauche, puis on redescend. Et cette fois-ci, on va inverser. On met le pied gauche sur la marche et on lève bien haut le genou droit. Puis on redescend. On relève le genou droit comme si on voulait l'emmener à la poitrine, puis on redescend. On lève le genou droit en soufflant, puis on redescend. On lève le genou droit, puis on redescend. Et à nouveau le genou droit, et on redescend. Voilà pour les débutants. On continue encore avec le genou droit, et on redescend. On lève encore le genou droit, puis on redescend pour les intermédiaires. On change de côté, on lève le genou gauche, puis on redescend. On relève le genou gauche, puis on redescend. Voilà pour les intermédiaires. Et on continue pour les confirmer. On lève le genou gauche encore une fois et on redescend. On lève le genou gauche, puis on redescend. On lève le genou gauche bien haut en soufflant, puis on redescend en inspirant. On lève le genou gauche en soufflant, puis on redescend en inspirant. On fait pareil du côté droit. On lève le genou droit, en aspirant, puis on redescend, on lève le genou droit en soufflant, puis on descend en aspirant, on lève le genou droit en soufflant, puis on descend en aspirant, une dernière, on lève le genou droit en soufflant, et on descend en aspirant. Bravo, tout le monde a réussi et tout le monde a terminé l'exercice du step-up.
Voilà, le step-up donc pour travailler les ischios. Écoutez, on va faire une petite dizaine de secondes de repos pour en profiter pour s'hydrater, parce que là va commencer maintenant, Jean-Marc, la séance d'abdos, et là ça va tirer.
Voilà, absolument.
Alors, on vous suit, Jean-Marc.
Alors, nous sommes à la séance d'abdos, nous sommes allongés sur le dos, sur une natte, sur un tapis de sol. Les jambes sont pliées, hein, les cuisses à 45 degrés, les pieds bien au sol. Et le but, c'est de croiser, par exemple, les bras sur le tronc, et on va pouvoir se redresser. Voilà, en soufflant, et on redescend tout doucement, sans poser la tête. Puis on se redresse en soufflant, puis on redescend sans poser la tête. Et en aspirant, on remonte en soufflant, puis on descend en aspirant. On remonte en soufflant, puis on redescend en aspirant. On remonte en soufflant, puis on redescend en aspirant. Voilà pour le premier groupe. On continue pour le deuxième. On remonte en aspirant et on redescend. On remonte en soufflant, puis on redescend en aspirant. On remonte en soufflant, puis on redescend en aspirant. Voilà pour le deuxième groupe. On remonte en soufflant, on redescend en aspirant. On remonte en soufflant, on redescend en aspirant. Et on remonte en soufflant, on redescend en aspirant. Bravo, tout le monde a réussi à faire ses abdos et le relevé de buste.
Eh bien, écoutez, on a bien travaillé, donc à la fois les ischios et à la fois les abdos. Je pense qu'on a mérité un peu de repos, Jean-Marc, maintenant, là.
Ah, absolument. Bravo, faut féliciter vraiment tout le monde, parce que c'est des exercices qui sont pas très simples, mais bon pour la santé.
En tout cas, bah, Jean-Marc, on vous remercie infiniment. Grâce à vous, grâce à cette chronique anti-sédentarité, on a pu chaque semaine travailler différentes parties du corps, que ce soit les épaules, les jambes, aujourd'hui les ischios et les abdos. Je vous remercie du fond du cœur, Jean-Marc, parce que c'est notre dernière chronique anti-sédentarité. Ensuite, bien, c'est les vacances pour vous, pour Caroline Paré et pour moi-même, bien mérité. On vous retrouvera donc en septembre, Jean-Marc, pour un retour à la normale des chroniques, j'ai envie de dire, c'est bien ça?
Absolument, avec un grand plaisir. En septembre, nous nous retrouvons pour des nouvelles chroniques.
Bel été, Jean-Marc, et merci infiniment. Voilà, c'est la fin de cette émission, préparée comme d'habitude par Acetous Samaké et Ophélie Lassen. À la technique et à la réalisation, c'était Didier Bleu. Demain, nous parlerons de la fratrie, des rapports entre frères et sœurs qui peuvent être compliqués ou fusionnels. Très bonne journée à tous et surtout, surtout, prenez soin de vous.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Sounois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Allianz et portent désormais la dénomination Sounois Assurance. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.